L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. La semaine de la santé mentale, elle a lieu chaque année. Pourtant, on se demande si ça suffit. Alors certes, des assises de la santé mentale ont eu lieu il y a quelques jours. C'est dire si le sujet attire désormais l'attention. Une pandémie est passée par là, des confinements, des moments d'angoisse ou pire. Mais le secteur n'allait pas fort avant même tout ça. Ça fait des années que les familles, les professionnels de santé mentale et les malades eux-mêmes alertent sur l'état de la psychiatrie. Avec nous aujourd'hui, il y a Jeanne Duchesne qui est bénévole coordinatrice du pôle communication à l'UNAFAM 29 et puis Orphée Recoin, président du groupe d'entraide mutuelle L'Envol. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais vous demander déjà chacun de me présenter la structure. Alors l'UNAFAM, c'est peut-être la plus connue, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire UNAFAM?
L'UNAFAM, c'est l'Union nationale des familles et amis de personnes handicapées psychiques ou malades psychiques. C'est une association nationale d'utilité publique qui écoute, accueille, soutient, forme les familles, les accompagne avec différentes actions et l'entourage des personnes. Ça peut être aussi des professionnels et qui représente les malades dans les structures institutionnelles, qu'elles soient politiques, par exemple le conseil départemental, sanitaire, par exemple les hôpitaux psychiatriques, médico-social ou social.
Et alors le GEM, j'avoue, je ne connaissais pas le groupe d'entraide mutuelle L'Envol avant que vous n'apparaissiez dans le dossier. Orphée Recoin, qu'est-ce que c'est le GEM?
Alors les groupes d'entraide mutuelle sont des associations loi 1901 qui sont financées par l'ARS et qui ont pour origine une loi de 2005. Et ce sont des lieux de compensation du handicap en direction des personnes qui ont des handicaps qui font obstacle à leur vie sociale. Donc ce sont des lieux où on peut rompre son isolement, rencontrer des gens, trouver des pères aidants, discuter de ses problèmes et éventuellement trouver des solutions. C'est aussi un accès à une vie culturelle et sociale dans la cité, puisque nous organisons tout un tas d'activités, aussi bien en interne qu'en externe. Voilà.
Et donc, c'est des lieux physiques, enfin, par exemple, à Quimper, il y a un endroit spécifique?
Oui, on loue un appartement qui a été organisé en lieu d'accueil et qui nous permet d'accueillir les adhérents et de leur proposer l'ensemble des services que nous pouvons leur proposer.
Et tous les jours, comment ça se passe?
Alors, le fonctionnement du GEM est un fonctionnement associatif, c'est-à-dire totalement démocratique. C'est géré par les adhérents et pour les adhérents. Nous avons un conseil d'administration et un bureau. Ce sont des personnes en situation de handicap psychique ou de souffrance psychique qui gèrent l'association et qui organisent elles-mêmes les activités de l'association.
D'accord. Et donc, il y en a un à Quimper au moins et un à Brest aussi?
Alors, il y en a trois ou quatre à Brest. Il y en a plus de 300 en France. C'est un dispositif qui a été étendu aussi en direction des personnes traumatisées crâniennes et des autistes.
Alors voilà, c'est là qu'on en arrive à la vaste question qui pourrait nous tenir toute l'émission et même sans doute plusieurs, de la définition quand on parle de santé mentale. Enfin, notamment, on peut parler de maladie psychique, mais il n'y a pas seulement ça, il y a la maladie mentale, enfin, il y a plein de choses. Vous employez plutôt le terme handicap, Orphée Recoin. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je ne sais pas qui... C'est vous, Orphée Recoin, qui allez nous dire?
Alors, les GEM sont ouverts aux personnes qui se sentent en souffrance psychique et il n'y a pas forcément besoin d'être handicapé psychique par rapport... à l'accès au GEM. On a des cas très différents, des gens qui sont suivis en psychiatrie, d'autres beaucoup moins, d'autres qui sont en rupture. Voilà. Mais ce qui différencie le handicap psychique du désagrément, on va dire, c'est le niveau de pathologie qui va être engagé. Par ailleurs, la santé mentale est un domaine beaucoup plus vaste qui ne s'arrête pas au handicap psychique ou à la maladie psychique en tant que telle. mais c'est un état d'épanouissement et de bien-être de la personne dans ses relations sociales et dans son investissement dans la cité. Donc ce n'est pas réducteur comme notion.
C'est ça,
vous pouvez très bien être dépressif, ne pas être traité, ou passer par un moment de creux, un coup de blues quelconque, saisonnier par exemple, ou autre. Et ce n'est pas forcément une maladie psychique.
Et puis, dans la santé mentale, il y a aussi tout ce qui est, vous l'avez d'ailleurs cité, par exemple, un traumatisme crânien, c'est qu'on peut devenir finalement... Oui, vous voulez dire, Jeanne Duchesne ?
Oui, je voulais... Orphée a très bien expliqué. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des confusions de terminologie et de langage, justement, parce qu'on parle aussi de handicap mental et souvent, on confond... les problématiques de handicap mental et de handicap psychique. Donc, au niveau du handicap mental, on a affaire souvent... ça résulte. Un handicap, c'est la conséquence d'une pathologie. Et ce sont des pathologies, en général, identifiables. Génétiques, enfin, on peut citer toutes sortes de pathologies. Mais, par exemple, la trisomie 21 fait partie de la catégorie du handicap mental. Donc, souvent, il y a une limitation des capacités de la personne, intellectuelle en particulier, mais pas que. Et ça, c'est assez stable. On sait ce qu'on a en face de soi. Alors, plus ou moins, il peut y avoir des variations. Voilà. Et la prise de médicaments est modérée. Au niveau du handicap psychique, c'est différent. La personne n'a pas d'altération de ses capacités intellectuelles. La difficulté qu'elle a, c'est de les mobiliser. Alors, elle peut avoir une altération passagère de ses capacités intellectuelles, en gros, mais en tout cas, elle est... j'aurais tendance à dire un peu comme nous autres, vous avez autant de goût et de capacité que dans la population. Par contre, elle a des difficultés à organiser ses capacités, à les mobiliser. Par exemple, peut-être on pourra en parler, Orphée saura le dire mieux que personne, au niveau de ses relations à l'extérieur, au niveau de ses angoisses, au niveau du repérage dans la cité, de se déplacer, au niveau de capacité d'organisation. Vous voyez, c'est ça.
C'est plus un problème finalement social, de relations sociales finalement.
C'est le problème de mobiliser ses capacités. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de capacité. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à voir une personne, fût-elle jusqu'à handicapée psychique, avec aussi sa part de compétences, de possibilités, et pas de la restreindre juste à une personne qu'on voit sous l'angle de ses difficultés dues à sa maladie, c'est-à-dire sous l'angle médicamenteux, parce que souvent, les traitements sont indispensables, ils peuvent être lourds, donc aussi avec des difficultés, d'effets annexes, etc. Voilà. Mais comme Orphée l'a bien dit, la santé mentale, c'est quelque chose de général qui n'implique pas spécialement une pathologie particulière. C'est un état général.
Ouais, et je voudrais rajouter une chose, c'est qu'on peut être atteint d'une maladie psychique, être schizophrène et être pourtant en bonne santé mentale parce qu'on est rétabli, parce qu'on est stabilisé et qu'on a une vie sociale acceptable.
Oui, parce qu'on est bien pris en charge, en fait.
Parce qu'on est bien pris en charge. Donc, il faut distinguer vraiment la santé mentale de la maladie psychique. La maladie psychique, ça correspond à une nosologie, à un diagnostic. Voilà.
Et est-ce que les troubles du comportement, enfin, je ne sais plus exactement quel est le terme, comme les troubles du spectre autistique, font partie des maladies psychiques proprement dites ou pas, ou c'est un autre terme?
Alors oui et non, mais c'est-à-dire que on navigue un peu encore à vue, c'est-à-dire que si je prends par exemple une psychopathologie assez grave telle que la schizophrénie, on a maintenant une nosologie assez précise. On sait ce qui se passe dans le cerveau d'un schizophrène. On sait aussi qu'il y a une forte prévalence génétique aux troubles schizophréniques, qu'il y a une organisation du cerveau qui commence déjà dans l'embryogenèse. Donc,
dans le ventre de sa mère, on est déjà...
Dans le ventre de sa mère. Donc, on est très loin, on est très loin de la psychanalyse maintenant.
Ah oui, bien sûr, tout à fait. Oui.
Voilà, parce que qui est assez dogmatique, qui a beaucoup de mal à se remettre en question et qui est un héritage assez lourd en France, en fait, d'un point de vue théorique. Et qui maintenant est dépassé par la psychologie expérimentale,
par la science, quoi, en fait.
Par la science, oui.
C'est ça. C'est-à-dire que oui, maintenant, on fait suffisamment d'expériences scientifiques, enfin, en tout cas, d'observations pour connaître un peu mieux ces maladies, même si, en plus, la schizophrénie, alors bon exemple ou mauvais exemple, je ne sais pas, mais je crois qu'il y a presque autant de schizophrénie que de personnes atteintes, c'est ça ?
Oui, presque. Puis malheureusement, elles sont victimes de préjugés extrêmement lourds. Le schizophrène est fréquemment associé à sa dangerosité.
Alors qu'il est surtout dangereux pour lui-même, c'est ça ?
Il est essentiellement dangereux pour lui-même, qu'il est dans une très grande souffrance, parce que c'est vraiment grave, parce que vous avez une organisation neuronale qui fait que vos pensées vont, par exemple, se traduire en voix, et vous allez entendre des voix alors que c'est votre propre pensée. Mais aussi, ça peut aller jusqu'à des hallucinations visuelles, des troubles paranoïaques. Et parmi les troubles paranoïaques, il peut y avoir effectivement des passages à l'acte.
D'accord. Mais ça arrive, mais c'est très rare, quoi.
C'est l'exception.
Oui, vous vouliez
dire. Vous souhaitiez peut-être des témoignages, un témoignage par rapport à ce que dit Orphée sur les voix. Moi, je souhaitais apporter un témoignage.
Allez-y.
Voilà, pour expliquer le décalage entre ce que vit la personne et comment elle est perçue à l'extérieur. Le décalage ou pas de décalage, selon comment ça se présente. Donc moi, je voulais signaler, par exemple, une période de crise, de décompensation, que j'ai vécue personnellement en tant que proche. Voilà, j'ai un fils qui donc est schizophrène aussi et qui, par moments, a eu, moi maintenant, puisqu'il est en voie de stabilisation aussi, je dirais pas de réinsertion, mais de stabilisation. Par exemple, c'est ce qu'on voit souvent nous aussi quand on écoute les familles. Quelque chose qui revient souvent, c'est ce besoin, cette urgence de fuir son lieu. Parce que, comme disait Orphée, il entend des voix qui lui expliquent qu'il est en danger. Donc ça, c'est le délire de persécution, hein, qui est un des délires aussi associés, souvent. Et donc, de toute urgence, il a quitté son domicile, qui n'était pas loin de chez nous, sans nous prévenir. Et donc, il se sentait dans un danger tel, dicté par ses voix. Il faut comprendre que c'est la maladie qui a fait ça. À ce moment-là, les voix, et qu'à cette époque, il n'était pas encore capable, dans ces périodes-là, de prendre ses distances par rapport à ça. Il y a toute une éducation par rapport à ça aussi.
Oui, ça s'apprivoise, les voix.
Voilà,
en fait.
qui vise à ça. Hein. Tout le soin vise aussi à ça. Il n'y a pas que les médicaments, mais les médicaments aussi, sûrement. Et donc, il a mis deux frontières entre chez lui et l'endroit où il est allé. Il s'est retrouvé dans une grande gare européenne où il s'est mis sous la protection de la police. Donc, je vous raconte les choses vues par moi, sa maman, que j'ai appris qu'après. Et donc, en expliquant aux policiers qu'il était en grand danger, que sa vie était en grand danger. Et pour vous expliquer qu'il a eu un discours cohérent et au niveau intellectuel qu'il n'y avait pas de problème par rapport à la façon dont il s'exprimait dans une langue étrangère, qui plus est, en anglais, le policier l'a cru. Le policier s'est dit, voilà quelqu'un qui, effectivement, est en danger, etc. Et il lui a dit, mais vous n'avez pas quelqu'un qu'on peut avertir pour essayer de voir comment on peut faire pour vous mettre en sécurité et tout. Et il a eu la bonne idée de donner notre numéro de téléphone.
Quand même.
Alors évidemment, moi, quand j'ai reçu le numéro de téléphone, enfin le coup de fil du policier, inutile de vous dire, bon, il a fallu aussi faire attention à comment notre proche recevait notre parole, nous autres les aidants, pour pas que ça provoque une souffrance encore plus grande. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça ? C'était une souffrance tellement grande qu'il est parti. Mmh. Il ne pouvait plus la supporter, sa souffrance.
On voudrait partir
même
de sa tête, mais on ne peut pas.
Nous prévenir, nous, ses proches, pour essayer. Vous voyez, donc c'est ce témoignage. Enfin, il y en a tout un tas de témoignages divers et variés, mais on entend régulièrement, nous autres, le témoignage de personnes qui partent. Qui ont pour fuir ce qui pour eux est quelque chose de très difficile à supporter. Et on redira jamais assez, Orphée l'a dit, on redira jamais assez que ces pathologies, on dit troubles schizophréniques, ou voilà, par exemple la bipolarité ou tout un tas de troubles importants du comportement, etc. On dira jamais à quel point ces personnes sont d'abord des personnes qui souffrent énormément. Qui souffrent énormément. Et c'est vrai, comme Orphée le signale, c'est peut-être une des premières choses à faire comprendre à la société, plutôt que de les stigmatiser dans tout ce qu'on peut voir de films ou de je ne sais quoi, ou de discours, puisque nous sommes schizophrènes, utilisés pour n'importe quoi, tout et n'importe quoi, tout un tas de films où on vous montre des schizophrènes dangereux, vous voyez, ce genre de choses.
Oui, d'autant plus que la décompensation, le phénomène de décompensation psychotique n'indique pas forcément une schizophrénie. Dans les phénomènes de décompensation, vous avez les burn-out, vous avez les pertes de contrôle complètes dans une relation alcoolisée. Enfin, voilà, c'est assez vaste. Et il faut bien comprendre que la décompensation en tant que telle est un moment d'une intensité émotionnelle telle qu'on ne peut pas y résister. C'est absolument impossible. Vous êtes dépassé par vos émotions, vous êtes dépassé par ce que vous ressentez et dépassé par le fonctionnement de votre cerveau qui vous entraîne au-delà même de ce que vous pourriez imaginer.
Et là, plus les proches connaissent ce risque, mieux ça peut être pris en charge, je suppose.
Alors, ça dépend. Il y a plein de cas de figure différents, c'est-à-dire que les proches peuvent être soutenants ou pas aussi. C'est-à-dire que dans le déclenchement des maladies psychiques, il y a aussi les relations intrapersonnelles et familiales qui peuvent jouer un facteur de déclencheur ou pas.
Ah oui.
Voilà. Donc il n'y a pas de règle univoque.
Et puis, il y a la difficulté, j'imagine, des diagnostics, peut-être moins maintenant, mais pour vous, ça a été long, par exemple, de savoir ce que vous aviez
Oui, en fait, le diagnostic dont je fais l'objet, pour l'instant, je le garde pour moi, mais un peu en suspens, parce que je n'en suis pas encore sûr. Et j'ai du mal à me retrouver dans la nosologie qui m'est proposée de ce point de vue-là. Mais ça aide le psychiatre à orienter le traitement. Or, le traitement, pour l'instant, est efficace.
Ouais, ça vous fait du bien, quoi.
Ça me permet d'être stable, d'avoir une certaine équanimité face à l'existence et de ne pas être bouffé par les angoisses et paralysé dans ma capacité à agir.
Et combien d'années il a fallu pour que vous trouviez cette sérénité
J'ai 49 ans et j'ai mon premier phénomène de décompensation, je l'ai eu à 33 ans.
Ah, c'est tard quand même, finalement.
Ouais, oui, oui.
Mais vous aviez souffert avant.
Mais en fait, je ne suis pas schizophrène, mais... Je serais schizotypique, ce qui est encore autre chose. Ça a été un très long parcours. Et ça a abouti à une hospitalisation longue de plus de 6 mois.
Et vos proches, et justement, ils étaient complètement désemparés ou est-ce qu'ils connaissaient déjà des choses?
Alors non, non. En fait, j'ai toujours tenu mes relations sociales loin de mon délire. C'est-à-dire que même en pleine décompensation, j'étais capable de m'occuper de mon fils, d'aller à la médiathèque, de lui raconter des histoires, d'avoir des activités. J'avais conscience que quelque chose n'allait pas et j'étais capable de m'organiser au-delà de la pathologie, de la psychopathologie à ce moment-là, de façon à assurer.
Vous gériez, exactement. Quoi. Mais c'est peut-être pas toujours le cas, c'est
ça ? Non. Ouais. Je suis même peut-être un cas particulier.
Oui, c'est ça.
Vous avez eu de la chance,
entre guillemets, quoi.
Ouais. Oui, j'ai eu de la chance d'être conscient que quelque chose n'allait pas, oui, voilà. Et d'être en capacité d'y résister et de m'organiser malgré tout. Voilà, ça ne m'a pas empêché de travailler, ça ne m'a pas empêché de... Voilà, mais par contre, j'étais totalement délirant, irrationnel. J'avais des petits rituels propitiatoires, j'avais des réactions extrêmement paranoïaques. J'étais envahi de symboles. Tout faisait sens. J'en rigole maintenant, mais j'étais capable de lire l'avenir dans les plaques minéralogiques.
Ah, vous n'êtes peut-être pas le seul. Et vous, Jeanne Duchesne, quand vous avez appris la schizophrénie de votre fils, est-ce que ça a mis du temps, pareil ?
Très long. Le diagnostic a été extrêmement long. Je peux vous dire que c'est souvent, puisque nous, là, je parle de mon cas personnel, sûrement pour éclairer nos auditeurs, mais je suis aussi bénévole accueillante. Depuis, je vous dis, ça fait peut-être 17 ans maintenant que je suis à l'UNAFAM dans des endroits différents et on voit bien le désarroi des proches, quand encore il y a des proches, parce que ça n'est pas forcément le cas partout. Les médecins, je pense, sont très longs à établir le diagnostic, c'est très compliqué. Comme l'a dit Orphée, il y a différentes pathologies et quelque part, il y a des signes qui se recoupent les unes dans les autres. Bon, nous, notre garçon, il a décompensé quand il a quitté son foyer familial au début de ses études. Au début, ça se passait pas mal, mais peut-être il y a eu tout un tas d'événements, y compris familiaux, le décès de son grand-père, auquel il tenait énormément. Enfin, le fait de quitter la maison, il le dit maintenant, il dit « j'avais besoin de cet été, sûrement que vous nous donniez de ce cadre ». Et le fait de me retrouver en dehors, complètement libre, alors que nous, on n'avait aucun comportement préalable qui nous permettait de penser qu'il pouvait y avoir des risques. Donc là, ça a été vraiment... nous, on ne connaissait pas ces maladies-là. Donc,
ça a été un choc. Quoi.
Ça a été un choc, comme beaucoup de familles, quand il y a des familles et qu'elles viennent à l'UNAFAM, hein, c'est pas la majorité.
Mais l'UNAFAM est là pour ça aussi.
Oui, mais voilà. Pour les aînés, mais quoi. En tout cas, c'est un diagnostic qu'a mis. Il a d'abord été soigné par une pédopsychiatre, malgré le fait qu'il était majeur, qui essayait le plus possible de retarder le moment d'entrer dans la psychiatrie adulte. Et donc, il a eu la chance au départ d'être suivi par une personne qui était une psychologue spécialisée au niveau des tentatives de suicide des jeunes gens. Il a fait 5 tentatives de suicide. À chaque fois,
parce que c'est souvent un corollaire
de la schizophrénie. Il a pu être sauvé, mais je peux vous dire que ça s'est passé très près à chaque fois. C'était juste, c'était juste, si on peut dire ça. C'était des appels au secours, voilà, auxquels il fallait répondre, et on a vécu. Il y avait une fratrie qui était là aussi, hein, sûrement des choses très compliquées. Et c'est vrai que de ce point de vue, l'UNAFAM pense, et je pense qu'elle a raison, qu'aider les malades, c'est aussi aider les familles. Parce qu'effectivement, quand la famille comprend ce qui se passe, déjà, c'est aidant. Parce que vous avez des familles qui mettent leurs proches à la porte. Vous avez toutes sortes de choses comme ça. Or, il faut essayer de comprendre déjà ce qui se passe. En plus, quand vous lisez ce qui est inscrit sur les notices des médicaments, c'est un peu au secours, tout le monde aux abris. Enfin, nous, notre premier réflexe, ça a été d'aller voir un psychiatre pour se faire expliquer tout ça, parce qu'on avait l'impression d'entrer dans un univers inconnu.
Bon réflexe, quoi.
Voilà.
Ouais.
Donc, voilà comment ça s'est passé pour nous et pour beaucoup de familles. C'est aussi un choc et elles ont aussi besoin d'être accompagnées.
Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement, mais c'était à prévoir. Les mesures qui ont été annoncées récemment, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui manque, alors, Orphée Recoing? Dites-nous.
Alors, j'ai regardé avant-hier l'allocution du président de la République sur les mesures qu'il souhaitait prendre en faveur de la santé mentale et du secteur de la psychiatrie en particulier. Il a annoncé 800 postes pour aller renforcer les CMP, des choses comme ça.
Centre médico-psychologique.
Centre médico-psychologique, ouais, on va éviter les acronymes, on est des champions en France pour ça.
Il y a le numéro d'urgence, c'est ça aussi?
Oui, il y a le numéro d'urgence aussi, mais...
800 postes, ça paraît pas beaucoup quand même pour l'ensemble de la France.
Pour l'ensemble de la France, ça fait pas beaucoup. Il faut savoir que je suis suivi en CMP et j'ai fait 2 ans de psychothérapie. Mais pour avoir mon premier rendez-vous, ça a pris 6 mois.
Ouais,
donc la prise en charge peut être extrêmement différée, alors que souvent il y a des cas d'urgence à traiter. À traiter les personnes. En 6 mois, vous avez le temps de vous suicider ou d'avoir trouvé des ressources pour vous en tirer malgré tout. Donc, je pense qu'ils ne maîtrisent pas vraiment le sujet. Ça s'entendait assez nettement. Le sujet de la psychiatrie et de la santé mentale lui sont assez étrangers. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est pas un domaine non plus facile.
Et pourtant, on dit qu'il y a un Français sur 5 qui serait concerné par un problème de santé mentale, quoi, en
oui,
étant très large.
Oui. Et puis, un Français sur 5, voire 1 sur 4, mais 1 sur 5 certainement, oui. Toute pathologie
oui,
confondue.
Oui, c'est ça, tout confondu, quoi. Et puis en plus, oui, Madame Duchesne, pour terminer, alors, juste une minute.
Oui, ouais. Alors, je voulais dire qu'il y a des mesures que nous accueillons très favorablement à l'UNAFAM, et en particulier celles qui concernent les enfants, qui sont les adultes de demain. Mais nous sommes très loin du compte, car si on parle des mesures qu'il faudrait déjà une véritable remise à plat du secteur sanitaire. peut-être, qui est un peu renfermé sur lui-même. Et puis surtout, que l'autonomie puisse devenir quelque chose qui soit dans la tête de chacun. Et ça, ça veut dire droit au logement et au logement adapté, c'est-à-dire ce qu'il faut pour compenser aussi le handicap. La prestation de compensation du handicap est très difficile à obtenir pour les personnes psychiques, les handicapés psychiques. L'aide humaine, un grand souci pour tout le monde. Donc voilà, l'organisation des soins, mais aussi le soutien à l'autonomie de vie des personnes vivant avec des troubles psychiques, c'est-à-dire mieux soigner, mais aussi leur donner ce dont elles ont besoin pour pouvoir participer, comme tout à chacun, à une bonne inclusion sociale. Enfin, bon, inclusive, c'est le mot à la mode, mais ça ne doit pas être qu'une mode. Il faut vraiment veiller à un ensemble. Nous, on dit pas de soins sans accompagnement, pas d'accompagnement sans soins. Et l'accompagnement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il ne s'agit pas que d'un accompagnement médical.
Bon, c'était trop court cette émission, nous sommes d'accord. Alors je rappelle quand même que le cadre de l'émission, c'est la semaine de la santé mentale. Alors essentiellement à Quimper, il y a entre autres des portes ouvertes à l'hôpital de jour du Pôle Enfant 8 rue du Stade, les 7 et 11 octobre. Des portes ouvertes à la résidence accueil Maden, service Madeo, plusieurs conférences aussi avec des spécialistes, des grands témoins, des expositions, la projection d'un film documentaire, Le Monde Normal. Donc cette semaine a lieu à Quimper et à Douarnenez. Vous pouvez aller sur le site internet semaine-santé-mentale. Enfin, on mettra aussi les coordonnées de vos deux associations sur le site de la radio, où vous pourrez réécouter cette émission. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.